Est-ce que il n'y a pas trop de son?
Oui. Oui, c'est. Oui, c'est
bien. Et là, il y a l'ascenseur, nous aussi. On ne peut pas avoir.
Ouais, vous voyez un professionnel du cinéma qui a le sens de.
Oui. Comment c'est pas d'accord. Monsieur Thierry Michel, hier c'était chez Béa, aujourd'hui vous me connaissez. Alors, pourquoi vous intéressez tant au Congo?
Il y a d'autres pays, hein. je tourne aussi bien au Brésil qu'en Iran, en Russie qu'au Maroc, mais c'est vrai que j'ai développé pas mal de films au Congo, c'est un peu le hasard de l'histoire. J'ai été au Congo à un moment crucial de son histoire, puisque c'était la fin du règne du maréchal Mobutu. Et voilà, j'ai vécu des moments de révolution, de tumulte, de pillage, de violence politique. Et je me suis attaché à ce pays. J'y ai des amis, j'y ai des réseaux. Je suis devenu un témoin privilégié, presque un historien par l'image et le son de ce pays. Et voilà, de fil en aiguille, je suis presque au 10e film sur le Congo.
Alors moi, j'entre directement dans le contexte de l'interdiction du film à Kinshasa, on est en DC. Donc j'aimerais savoir, avez-vous obtenu l'autorisation de tourner ce documentaire en
RDC ? Totalement, et j'ai pu le tourner en toute liberté. C'est le film que j'ai fait avec le moins d'arrestations, le moins d'interpellations. Je n'ai pas été expulsé. Donc le tournage dans ces tests du Congo s'est très, très très bien passé, du fait aussi que la population était extrêmement accueillante et voulait absolument témoigner. Et que partout, voilà, les gens communiquaient entre eux pour dire il faut absolument que vous rencontriez cette équipe de cinéma. Donc il y a eu dans la société au Kivu et dans la population un mouvement de soutien à ce tournage.
Et quand avez-vous appris que votre film La colère d'Hippocrate ne sera pas diffusé en RDC?
Alors le titre c'est L'homme qui répare les femmes, oui. La colère d'Hippocrate. Oui. Je l'ai appris il y a 2 jours. C'est-à-dire c'est Colette Braeckmann qui a eu au téléphone le ministre de l'Information, qui lui a annoncé que contrairement à ce qui avait été prévu et annoncé précédemment, d'ailleurs par lui-même, le film à la demande des militaires. Était catégoriquement interdit au Congo parce que les militaires avaient estimé qu'il portait atteinte à l'image des forces armées congolaises, qu'il était même une calomnie contre l'armée congolaise, ce que je dément totalement. Je pense que c'est une mauvaise interprétation du film. Ils ont dit qu'il y avait des erreurs dans les sous-titrages et dans les traductions qui était insidieuse et malveillante. Nous avons revérifié toutes les traductions, nous avons fait revérifier par des experts qui parlaient machi, qui parlaient swahili. Il n'y a aucune erreur dans les traductions qui avaient été extrêmement faites de manière extrêmement, je dirais presque scientifique. Ils nous ont dit que les commentaires accusaient l'armée congolaise de violer. Non, on a relu le commentaire, je peux vous envoyer le communiqué qui analyse tout cela. Et il est bien dit que des groupes armés, si vous avez entendu le film aujourd'hui, des milices Hutu, des milices Tutsi, des groupes armés congolais et des éléments des forces armées ont en effet fait des actes inadmissibles, ce que tout le monde dit. Ce que le rapport des Nations Unies qui a été établi par les experts et rendu public par le commissariat dit encore de manière beaucoup plus radicale que nous, puisque eux ils ont répertorié 615 actes d'atteinte grave aux droits humanitaires, aux droits de la guerre, de crimes qu'ils ont répertoriés. Et si vous avez bien vu le film, en plus on a eu cette prudence de ne jamais citer les présumés coupables ou criminels. Ce qu'on aurait pu faire, puisque nous avions de nombreux témoignages, les gens disaient c'est le général un tel, le colonel un tel, le major. Bon, nous avons volontairement voulu donner un contenu universel au film, donc nous n'avons pas gardé, nous n'avons pas fait un film dossier, on n'a pas fait un film d'investigation, on fait une parabole universelle sur la violence, principalement la violence contre les femmes, la résilience des femmes, la résistance des femmes, comment se reconstruire. Voilà, c'était ça le sujet du film. Et si nous n'avons pas mis tous ces noms, c'était pour permettre au film d'être vu par les Congolais, sachant que dès qu'il y avait le nom d'un responsable aujourd'hui, qu'il soit militaire ou politique, qui aurait été accusé, ça fermait la porte au film. Donc pour nous, c'était incompréhensible qu'il y ait une censure. Là, on ne comprend plus rien, sauf peut-être ce que beaucoup de gens pensent, que la censure, ce n'est pas la question du film, c'est la question du docteur. C'est qu'on ne veut pas que la parole du docteur, qui est toujours une parole qui n'est pas seulement celle d'un docteur, c'est la parole du prix Sakharov, du candidat pour le prix Nobel. C'est une parole qui dit « je ne veux pas continuer de soigner des femmes violées, parce que ça, je peux le faire sans arrêter, presque de génération en génération. Non, je veux aujourd'hui qu'on éradique les causes et que les gens qui ont commis ces crimes soient traduits en justice. » Et cette parole-là semble aujourd'hui, malheureusement, de par la décision de censure, une parole interdite au Congo. Mais cette censure, c'est un peu un aveu aussi. Hein. Moi, ça me trouble beaucoup. Le pouvoir a-t-il tellement peur qu'on dise qu'il y a eu des crimes au Congo? Mais tout le monde sait qu'il y a eu des crimes au Congo.
Oui, mais justement, je voudrais rebondir par rapport à cette incompréhension. Parce que quand on regarde votre film, par moments, on a l'impression que Dr Mukwege plaide la cause du Congo.
Oui, pour moi, quand il fait la fierté.
Oui, quand il se retrouve aux Nations Unies et qu'il constate que le banc réservé à l'RDC est vide, il est chagriné par rapport à ça. Et il va même plus loin. Il dit que, sans citer bien sûr les instigateurs, les gens qui sont dans l'ombre des pays voisins, on le sait, il va même jusqu'à faire allusion à ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Mais comment expliquer que il y a cette méfiance du gouvernement congolais par rapport à ça. C'est ce qui fait que quand on regarde ce film...
Mais non, le gouvernement congolais devrait comprendre que c'est un homme qui fait honneur, non seulement au Congo, mais honneur à l'Afrique. Que c'est un homme qui est d'abord d'une abnégation totale, qui a remis, réparé, pas seulement physiquement, réparé psychologiquement, et je ne dirais même pas des femmes, des communautés. Il fait un travail incroyable que l'État aurait dû faire. Toutes les structures hospitalières dont il s'occupe, parce que ce n'est pas l'hôpital de Panzi, c'est toutes des structures hospitalières itinérantes qui vont jusqu'en Équateur, qui vont au Katanga, qui vont au Kasaï, qui vont au Maniema. Mais c'est à l'État à faire ça. Lui le fait. Mais il devrait être décoré par les autorités congolaises. On devrait lui faire un monument. Et au lieu de ça, il doit être enfermé dans un hôpital, menacé dans sa vie. On a tué un de ses proches. Les Nations Unies doivent le protéger, comme vous avez vu dans le film, avec un charroi militaire invraisemblable. C'est irrationnel. C'est incompréhensible. C'est ubuesque. J'ai l'impression qu'on retombe dans ce drame qu'avait déjà, en son temps, qu'un grand écrivain, d'ailleurs prix Nobel, avait dénoncé en son temps, ce qui s'appelle, cette année Paul, hein, qui s'appelle le nihilisme africain. Il faut que l'Afrique sorte de ce nihilisme mortifère. Et le docteur est de ces gens qui sont des hommes qui veulent reconstruire une nouvelle Afrique, une Afrique digne, une Afrique respectueuse d'elle-même, une Afrique du dialogue. Voilà, c'est... appuyons-nous sur ces gens-là.
Après avoir tourné autant de films sur le Congo, et avez-vous le sentiment qu'il y a un éveil de conscience, les langues commencent vraiment à se déchaîner
Moi, je trouve que, à part les mouvements de jeunes qui sont apparus ces derniers temps et qui ont été réprimés assez violemment, le peuple congolais est un peuple extrêmement pacifique. Mais il ne faut pas que la passivité soit de la servilité. Je ne comprends pas. Je pense qu'on ferait ça dans d'autres pays. Les gens n'accepteraient pas. Je ne comprends pas comment les Congolais sont aussi soumis. Je ne comprends pas. Alors on peut dire la répression. Non, non, c'est faux. D'autres pays où la répression est même parfois plus dure, la population s'est prise en charge. Donc je pense qu'il faut, et je crois que c'est l'idée du docteur aussi, une vraie révolution morale. Que la révolution politique ne résoudra pas tout. Ça a bien été dit dans la salle tantôt, un Africain qui a dit aussi, attention, les traditions, ces traditions, ces maraboutages, ces sorciers, etc., ben ça, c'est pas le gouvernement. C'est aussi quelque chose d'enraciné qui est totalement contre-productif et dans le cas du film, on voit mortifère.
Mais n'avez-vous pas l'impression que, à travers ce film, à travers Katanga Business, que vous avez réalisé, qui a aussi connu un grand succès, qu'aujourd'hui, le Congo, comme bien d'autres pays africains, sont dotés des ressources naturelles, sont devenus pratiquement le paradigme de ce qu'on appelle le néolibéralisme sauvage, où l'État, les dirigeants politiques capitulent devant des multinationales puissantes.
Non, je ne pense pas que les dirigeants capitulent. Je pense que les dirigeants sont parmi les bénéficiaires de cette situation d'exploitation sauvage. Je pense qu'ils voilà, ils en ont les royalties. Je pense que la classe politique n'est pas du tout victime de ce capitalisme sauvage dont vous parlez. Je pense qu'elle en est un des bénéficiaires.
En Afrique, tout comme en Occident.
Bien sûr, évidemment. Oui.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que...
Absolument.
Toutes les multinationales qui sont citées nommément ne soient pas inquiétées et qu'on fait comme si rien ne s'est passé. Et on parle des rébellions dont on ne connaît même pas l'origine.
Mais attention, que moi je suis plus nuancé parce que je vois que là où les multinationales sont les plus fortes, par exemple au Katanga, bien sûr qu'elles exploitent la population avec des bas salaires ou des conditions de sécurité. Certains sont plus sauvages, plus esclavagistes que d'autres. Hein. Les multinationales asiatiques ont des codes de conduite beaucoup moins respectueux des travailleurs. Mais ce n'est pas là qu'il y a la guerre. Et il n'y a jamais eu la guerre au Katanga, au sud Katanga. Dans le Katanga utile, il n'y a jamais eu la guerre. Parce que là, les multinationales n'avaient pas envie qu'il y ait la guerre. Mais au Congo, où c'est plutôt des sociétés mafieuses, les mafieuses venues de tous les pays... Hein, ça peut venir des pays asiatiques, ça peut venir de pays anciens empires soviétiques, ça peut venir de pays occidentaux. Là, c'est plutôt des sociétés, des petites sociétés, pas toujours cotées en bourse, mafieuses, qui s'allient aux forces militaires et politiques locales, voilà, pour exploiter et se partagent le fruit du pillage. Donc, sur les grandes multinationales, mais cela dit, il faut des législations qui réglementent tout ça. C'est au pays à réglementer. Donc c'est au Parlement de ces pays à réglementer. Je sais que plusieurs fois, il y a eu des requêtes, mais ça c'est à un autre niveau. Mais par exemple, la communauté internationale souhaite qu'au Congo, il y ait des tribunaux mixtes, comme il y a eu au Cambodge et dans d'autres pays. Donc que les juges congolais, trop dépendants du pouvoir, puissent être secondés par des magistrats d'autres pays, qui peuvent être africains, asiatiques, sud-américains, peu importe, de la communauté internationale pour garantir l'indépendance de la justice. Mais ça fait déjà trois fois que le Parlement congolais refuse ces propositions. C'est aussi une manière de se tirer une balle dans le pied. Donc il ne faut pas irresponsabiliser les élites congolaises et la classe politique congolaise de ce qui arrive chez elles.
Tout à fait, ils ont une part de responsabilité, ça c'est criant. Mais ce qu'on devrait aussi ajouter, et je vais en finir là, ce sont les conséquences de tout ce qu'on appelait le brassage, le mixage. Parce qu'il y avait déjà...
Ça c'est évident.
Il y avait déjà le viol.
On dit aujourd'hui que des militaires, et encore, on m'a envoyé des informations aujourd'hui, ça s'est passé, des massacres et encore des viols, il y a extrêmement peu de temps... Ouais. Et qu'on dit que ce sont des éléments de l'armée congolaise. Oui, mais c'est quels éléments ? Est-ce que ce n'est pas des anciens chefs rebelles qu'on a réintégrés dans l'armée, qui n'avaient aucune formation militaire, qui n'ont jamais fait la moindre académie militaire, et qui tout d'un coup se sont retrouvés avec un grade de colonel ou de général ? D'ailleurs, dirigeants, des gens qui, eux, ont fait les académies en France ou en Belgique.
Quand on suit votre film, justement par rapport aux témoignages, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, si on suit bien les témoignages des femmes qui ont été violées, on voit qu'il y a cette tranche pour dire que...
Aujourd'hui, attendez, les viols civils. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on dit que le viol n'est plus le fait des militaires, il devient le fait de civils. Hein, de viols... Oui. Bon. Il y a toujours eu des viols civils, mais enfin, il y a eu beaucoup plus. Est-ce que ce ne sont pas des démobilisés ? Est-ce que ce ne sont pas des enfants soldats traumatisés par la guerre, à qui on a fait faire des choses horribles ? Ils étaient presque forcés de violer.
Non, il y a eu ancrage de viols.
Et aujourd'hui, on les a remis dans la vie civile sans travail psychologique. Et donc, ces gens-là, qui sont des gens déboussolés, aujourd'hui commettent des actes dans la vie civile invraisemblables. Mais c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans le maquis. Donc ça, c'est l'autre aspect. C'est vraiment toutes ces séquelles de la guerre, tous ces traumatismes. Quelque part, c'est, je dirais, ces violeurs d'aujourd'hui, ex-enfants soldats, mais ce sont des victimes aussi. Ce sont des bourreaux, mais ce sont des victimes aussi.
Et comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo ? Notamment dans la région Est.
Quand je vois ce qui se passe à l'Est, quand je vois la mobilisation des femmes, quand je vois leur liberté de parole, leur capacité d'organisation collective, quand je vois quelqu'un comme le docteur Mukwege, que rien n'intimide, qui quand on l'intimide par une interdiction du film réagit encore plus radicalement dans ses propos, je vois un avenir. Je pense que la population, à l'exemple du Kivu, qui est la région la plus sinistrée, la plus meurtrie par la guerre, est sans doute aujourd'hui la plus mature. Donc je me dis que comme disait Baudelaire qui disait ça, de la boue on peut faire de l'or.
Merci, on va finir par cette note d'espoir. Merci Thierry Michel.
Parce que
avec Christine, vous avez vu. Vas-y, je paye.